RMC, les grandes gueules.
L'arrivée de la flamme à bord du Belém, ça va être l'événement, la fête aujourd'hui à Marseille. On va en discuter avec Étienne Taubois, qui est le directeur général de Paris 2024. Bonjour Étienne.
Bonjour.
La flamme arrive, c'est à la une de la Provence, le quotidien marseillais aujourd'hui. Alors le Belém n'est pas encore là, il sera là tout à l'heure, il va aller sur la rade nord, la rade sud, et ensuite il rentrera dans le Vieux-Port, ça sera ce soir. Mais on a l'impression que c'est aujourd'hui que commencent véritablement ces Jeux Olympiques. Paris 2024, non ?
Ah, c'est aujourd'hui que la flamme, elle arrive. Hein. Donc, c'est là où ça devient vraiment concret. Donc, ça va être une journée un peu incroyable. C'est chouette de la faire ici à Marseille, parce que quelque part, on est voilà, dans l'entrée Méditerranée. La flamme, elle vient de Grèce.
Elle est partie le 16 avril.
C'est ça, elle a été allumée le 16 avril. Oui. Après, elle a fait un petit tour en Grèce, et puis traditionnellement. Et puis là, elle est montée sur le Belém la semaine dernière. Elle a traversé, et puis elle va arriver à Paris. Pour la cérémonie d'ouverture.
Oui, parce qu'avant Paris, il y aura tout un parcours, un tour de France.
Un petit périple, 17 000 km, 450
Mais c'est quoi l'arrivée de la flamme, en fait ? Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que le bateau arrive, il y a une grande flamme à la proue du bateau ? Comment
ça va se passer ce soir ? Je vous laisse la surprise, mais on connaît le premier relayeur, donc Florent Manodou, qui, Marseillais d'adoption, champion olympique, va avoir l'honneur, finalement, d'être le premier à marcher sur le territoire français avec cette flamme olympique, ce symbole, 100 ans après. Donc,
D'accord, mais si Florent Manodou est le premier à porter cette flamme olympique, qui va allumer la flamme, le chaudron olympique ? Parce qu'il y a un petit mystère. Il y a un mystère. On sait qu'on connaît le nom des personnalités, des relayeurs ici. Il y a notamment Éric Dimeco. On est fiers d'avoir Dimeco porteur de flamme. Il y a des artistes. Mais il manque un nom. Qui est resté secret jusqu'à aujourd'hui. Bravo.
Est-ce que vous le connaissez ? Ou est-ce que justement pour éviter les fuites, il n'y en a que certains qui sont au courant ?
Pour éviter un peu la torture, je vous dirais que je ne le connais pas.
Donc il le connaît, mais il ne veut pas qu'on le sait.
Non, amenez les appareils.
Je ne le connais pas, et ça, ça va être tout l'enjeu. C'est peut-être la chose la plus dure sur l'organisation des jeux, c'est de maintenir secret.
Il y a un nom qui circule.
On a une grosse petite idée quand même.
Alors vas-y.
C'est le maestro, c'est le numéro 10 légendaire, c'est Zizou. Enfant de Marseille, les informations qui circulent. Qui circulent après. Peut-être qu'on se trompe.
Il y en a beaucoup d'informations qui circulent.
Mais on se trompe rarement.
Ça vous amuse, ça ?
Ah, bah oui, forcément. Donc on dément rien. Mais on affirme.
C'est ça, qui ça peut être d'autre ? Enfin, qui ça peut être
alors, impression.
Tant que c'est pas Anne Hidalgo, c'est l'essentiel. Hein.
À Marseille, ça serait bizarre.
elle serait capable.
Alors, Joël, les politiques peuvent pas porter la flamme.
Tant mieux.
Ah oui, c'est la règle. Là, un indice, ce sera pas.
Ça, c'est la règle.
C'est la règle.
Donc, ça sera pas Emmanuel Macron, parce qu'il sera là tout à l'heure. Macron, il sera pas porteur de flamme.
Politique. Ou alors, faut qu'il démissionne. Religieuse ni politique. Ne peut
alors, justement, impression d'arriver dans une ville qui va vivre l'événement olympique. Joël Dagosséry, alors.
C'était très joyeux dès hier soir parce qu'il y avait un concert à côté du Mucem. Donc c'était festif. Ça fait du bien parce qu'on sort de Paris de la grisaille, d'arriver sous le soleil et c'est la fête. Ça faisait un peu
le Mistral planètes. Est tombé en plus, parfait.
Exactement. Non, c'était vraiment festif, c'est joyeux, c'est bien. On se met dans l'ambiance assez tôt parce que nous Paris c'est un peu plus tard. Donc assez tôt dans l'ambiance. Après c'est vrai qu'on commence à sentir ce que ça va être en termes de contraintes de déplacement quand même parce que il y a plusieurs rues, plusieurs accès qui sont bloqués. Donc on commence à voir un peu ce que ça risque d'être. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est vraiment festif et voilà, il faut profiter de
ça. Toi, tu fais pas partie des ronchons, donc tant mieux.
Bah, je ronchonne parce qu'ils nous ont fait une communication qui était vraiment très dure, dans le sens où c'était un peu une communication, vous allez être embêtés, en gros. Donc j'ai ronchonné par rapport à ça, mais moi je suis très contente qu'on ait les Jeux Olympiques et je compte bien en profiter, donc voilà, c'est très bien.
Didier.
Bah, l'impression que ça donne quand tu traverses le Vieux-Port ce matin, on l'a fait ensemble Alain, c'est quand même que le Vieux-Port est sous cloche, que le risque... attentat est certainement très présent, que tout le monde est sur les dents et que c'est pas de passe droit. Et du coup, vu de l'extérieur comme on l'a fait ce matin, t'as quand même l'impression que les JO, ça va être pour quelques privilégiés qui auront le passe autour du cou comme on l'a aujourd'hui. Et finalement, le commun des mortels, il est plutôt emmerdé. On a vu des gens ce matin à côté de nous qui allaient travailler. Il n'y avait pas encore d'instructions pour qui passe, qui passe pas. Enfin, moi, j'ai quand même le sentiment que pendant tous ces Jeux, il y aura quelques privilégiés qui vont... profiter de l'événement. Et puis, il y a ceux qui auront les contraintes et qui devront aller bosser et qui seront très loin de l'événement.
Alors, Étienne Taubois, ouais, ça sera le jeu pour tous, les jeux pour tous, vraiment?
Je pense que nous, c'était. Les jeux grands ouverts, c'est un peu notre slogan. Et je crois que Tony Estanguet et puis l'ensemble des acteurs l'ont voulu comme ça. Quand on regarde tout ce qu'on fait, justement, pour faire de ces jeux que ce soit une grande fête, on parle du relais de la flamme, ça commence maintenant, 17 000 km, 450 villes traversées, ça va être la fête partout, c'est gratuit ici, hein, 150 000 personnes qui sont attendues, c'est super. Pour la première fois, il y aura un marathon, pendant les Jeux, il y aura des espaces de célébration partout en France, plus de 200 espaces de célébration, il y aura la possibilité de regarder toutes les épreuves sur route, gratuitement partout dans la ville. On va avoir pour la première fois une cérémonie d'ouverture avec plus de 200 000 personnes sur les quais, plus 100 000 personnes sur les quais, mais c'est 200 000 personnes sur les quais qui pourront venir gratuitement. On a ce marathon pour tous, cette opportunité pour la première fois pour le grand public, pour des gens gratuitement là aussi, de pouvoir participer le marathon. Donc on a ouvert les jeux au maximum.
Non, mais moi, je ne parle pas de prix. Je ne parle pas de prix. C'est juste qu'à un moment donné.
C'est des centaines de millions de personnes qui.
Non, mais la charge sécurité qui pèse sur les jeux fait qu'à un moment donné, tu as l'accréditation ou tu n'as pas l'accréditation.
Non, parce qu'il y a des gens il y a 150 000 personnes sans accréditation qui vont pouvoir venir aujourd'hui. Mais s'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de fête.
Oui, mais surtout que Didier Giraud, il fait partie de ceux qui pourraient être le premier à râler s'il y avait des problèmes de sécurité, si tout d'un coup, il y a un trou dans la raquette, si jamais il y a des gens qui arrive à s'introduire dans la zone interdite pour venir perturber le parcours. On sait très bien qu'il peut y avoir des revendications sociales.
Mal fait, mais
au-delà du terrorisme, il peut y avoir n'importe qui peut venir brandir une pancarte, vouloir perturber le parcours. D'ailleurs. Donc Didier, je sais très bien que tu serais le premier à aller dans les grandes gueules si jamais on laissait faire.
Ah mais je dis pas que c'est mal fait. Je dis que le contexte sécurité fait peser une charge sur l'événement, c'est tout, voilà. Et que ça, de jeu en jeu, je pense que pour les organisateurs partout, c'est de pire en pire, voilà, c'est ça que je regrette.
Non mais c'est vrai qu'on vit dans un monde...
Moi je dis pas que c'est bien ou que c'est mal.
Parce que le monde est quand même comme ça,
où il y a des tensions, il y a des revendications, et c'est bien d'ailleurs, et nous on essaye de discuter au maximum, parce que c'est aussi un territoire d'expression universel.
Non, je trouve ça plutôt bien... Bon, moi, j'ai été bloquée, par exemple, pour accéder au plateau. Il y avait le préfet qui était là et qui surveillait un peu tout. Donc, tout le monde a très bien fait son travail. Et je trouve ça plutôt bien. C'est vrai que c'est un peu lourd, mais c'est rassurant pour nous parce que, en fait, tout le monde pourrait passer, commettre un attentat. Et on n'a pas envie de ça. On n'a pas du tout envie que la fête soit gâchée. Donc, je préfère qu'il y ait beaucoup de sécurité plutôt que ce soit un peu laissé passer.
C'est des contraintes auxquelles il va falloir se plier pendant un temps donné.
Ça te choque, toi, Mehdi, ce trop plein de sécurité? Non,
ça ne me choque pas du tout. Je préfère trop de sécurité que pas assez. Ce matin, un exemple concret. On était à l'hôtel à quelques kilomètres d'ici. Olivier et Anaïs sont venus en trottinette et en vélo. Je ne sais pas, ils ont eu la brillante idée de venir en trottinette et en vélo.
C'est agréable de traverser Marseille en trottinette matin avec ce beau soleil.
Non, c'est juste parce que tu avais peur d'arriver en retard. Mais moi, avec mon gabarit, j'ai préféré la sécurité, j'ai pris un Uber.
C'est vrai que sur un vélo...
Un Uber van avec son gabarit.
C'est vrai que midi sur un vélo...
C'est une bétaillère, en fait.
On n'a jamais vu des photos, là.
Non.
C'est pas près d'arriver. Et donc, le Uber m'a déposé le plus normalement du monde. On s'est fait arrêter une sorte de feu rouge, il y avait des voitures de police. Ils nous ont demandé d'ouvrir le coffre. Enfin, ils ont demandé au chauffeur Uber d'ouvrir le coffre. Il a ouvert le coffre, c'est parti. Mais tant mieux. Cette présence policière est nécessaire dans le monde dans lequel on vit, avec la menace qu'il y a actuellement dans le monde. C'est nécessaire. Et puis voilà, c'est les Jeux Olympiques.
Ce qui est important, c'est qu'on informe bien.
Voilà, et il y a une bonne communication.
C'est ce qu'on essaie de faire avec le préfet de police à Paris, etc. On a fait un certain nombre de conférences de presse, mais aussi des informations pour que les gens puissent vivre leur vie normalement, les commerces puissent continuer à fonctionner, etc., malgré un certain nombre de dispositifs qui sont mis en place. C'est pour ça qu'on a commencé très très tôt. Il y a des dispositifs digitaux qui existent sur les transports, sur la sécurité, etc. Et on va continuer à communiquer, parce que il faut que les gens puissent s'organiser, parce que c'est vrai qu'il va y avoir quelques contraintes, mais pour autant, c'est la condition de la fête réussie. Et puis,
et franchement,
ça va permettre de faire
le porte-parole des jeux. Excuse-moi, le Uber, je lui ai ni dit que je faisais partie des grandes gueules, ni RMC, ni émission.
T'as pas reconnu
quoi que ce soit. Non, il m'a pas reconnu. Mais si, en plus, il m'a reconnu. Mais il est venu directement ici, il n'y avait pas de restriction de circulation. Le Waze a donné les
Camille Chaise, la porte-parole.
Je salue les Uber de ce matin, d'ailleurs.
Camille Chaise, la porte-parole. porte-parole du ministère de l'Intérieur, qui était l'invité ce matin de Charles Magnin, expliquait qu'il y avait 6000 policiers et gendarmes déployés. Je crois que c'est le plus gros déploiement de forces de l'ordre qu'a connu Marseille. C'est du jamais vu. On a concentré vraiment le maximum de policiers et de gendarmes pour que la fête soit réussie.
Bien, vous restez avec nous, Étienne Taubois, le directeur général de Paris 2024. Ces contraintes, puisque nous sommes à Marseille, ça va, vous vous y pliez sans trop ronchonner. 32-16 pour en discuter avec les GG, avec les Grandes Gueules. Journée exceptionnelle aujourd'hui dans la cité phocéenne pour l'arrivée de la flamme. Les Grandes Gueules, ils sont en direct de 9h à midi. À tout de suite avec les GG, Didier Giraud, Joël Dagosséry et Mehdi Guézard. Les GG, les Grandes Gueules en direct de Marseille pour l'arrivée de la flamme olympique tout à l'heure en fin d'après-midi, début de soirée, la flamme sur le Belém et les GG avec Didier Giraud, avec Joël Dagosséry, avec Mehdi Guézard sont en direct du MUCEM avec Étienne Taubois, notre premier invité, c'est le directeur général de Paris 2024. Je me demandais là pour la mobilisation, vous avez combien de bénévoles au total mobilisés sur cet événement des Jeux Olympiques?
Alors sur les Jeux Olympiques et Paralympiques, hein, parce que les Jeux Paralympiques c'est pour nous aussi super important, ce sera 45 000 bénévoles.
45 000 salariés déguisés alors?
Non, c'est 45 000 bénévoles, 300 000 personnes ont souhaité apporter leur temps et leurs compétences dans le cadre des Jeux, donc c'était une sélection, mais on a 45 000 personnes mobilisées. Il y a 3 semaines, on a fait une grande fête à la Défense Arena où ils étaient plus de 20 000 qui étaient là. Ça nous a mis une pêche d'enfer parce qu'ils ont... voilà, ils ont la banane, ils ont envie de participer, ils ont envie d'accueillir le monde et puis de vivre un truc qui sera assez magique.
Ouais. Moi, je suis très étonné, j'ai vu des reportages là-dessus, c'est l'engouement des étrangers, quoi. Dans les bénévoles, il y a une proportion, alors qui est peut-être négligeable, mais de gens étrangers qui voulaient y être, quoi.
Ouais, mais on a eu 14 000 Mexicains qui ont voulu.
Ah oui. Non, mais c'est impressionnant.
Gens après les Français, donc c'était on a plus de 150 pays qui seront représentés au sein de notre équipe de bénévoles. C'est à peu près 20% du nombre de bénévoles, mais on en a de partout de la France. Les 101 départements seront représentés et c'est une super équipe.
Ouais, alors justement, puisqu'on parle des départements, moi,
tu permets Olivier, parce que dans un instant, mais parce qu'on a un bénévole justement au 32-16.
Super.
C'est Vincent.
Il est mexicain. Bonjour Pablo.
Hola. Bonjour.
La Quetal.
Bonjour Vincent de l'Ardèche. Bonjour.
Bonjour les Grandes Gueules. Vous allez bien?
Ouais, bienvenue Vincent, parce que vous nous avez appelé au 32-16 parce que vous-même vous êtes bénévole, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Qu'est-ce qui vous a fait vous engager là pour les JO, vous dire allez j'y vais?
Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques temps, on s'était eu au téléphone justement concernant le sujet des Jeux Olympiques par rapport à Anne Hidalgo. Moi, ce qui me pousse à faire les Jeux Olympiques, c'est déjà d'être bénévole et d'être participé aux Jeux Olympiques. Et de deux, je fais toutes les grosses compétitions qui ont lieu en France. Et d'être bénévole et de participer et de partager avec des gens qui viennent du monde entier, c'est juste magique. On découvre d'autres cultures, le partage, c'est rigolo. D'être bénévole, c'est tout simplement une grande famille. Et je suis fier de faire partie des bénévoles qui participeront aux Jeux Olympiques en France.
Ça va être quoi votre rôle, vous, en tant que bénévole? Qu'est-ce que vous allez faire alors? D'accord.
Je suis chauffeur au Stade Vélodrome.
Ah, au Stade. Donc vous êtes ici en ce moment.
Vous êtes mobilisé.
Oui, je suis à Marseille.
D'accord. Et fier d'être là et vous savez exactement, précisément ce que vous allez faire aujourd'hui?
Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, là, à l'heure où on se parle, je viens en tant que touriste pour l'arrivée de la flamme. Ouais, parce que c'est à Marseille et que c'est une fierté de l'avoir arrivé, d'avoir arrivé la flamme à Marseille et de voir toutes les animations qu'il va y avoir autour. Et après, pour les JO, je débute le 16 juillet jusqu'au 12 août.
Alors, il faut peut-être rappeler quelles sont les épreuves accueillies ici à Marseille.
Il y a la voile et le foot.
D'accord. Donc, par exemple, au Vélodrome, vous allez gérer le foot.
Non, je suis chauffeur. En fait, je vais transporter des gens d'un point A à un point B.
Voilà, c'est ça.
Et content d'y participer. Bénévolement, c'est-à-dire pas de défraiement, rien du tout? Vous n'avez pas l'impression d'être un salarié déguisé, Vincent?
Il vit ici.
Non, alors non. Salarié déguisé, non. Parce que c'est mon bon vouloir de faire ça, en fait.
Ouais, c'est ça. C'est pour participer à l'événement, quoi.
C'est ça, exactement. D'être au cœur et de pouvoir dire j'ai participé aux Jeux Olympiques en France.
Merci Vincent d'avoir été avec nous et bon JO alors. Merci d'avoir été dans les GG, dans les grandes gueules.
J'ai
bonne journée.
J'ai une question qui fâche parce que après Marseille, donc on l'a dit, la flamme jusqu'à fin juillet va parcourir toute la France, 5000 kilomètres à travers 17 000 kilomètres à travers une soixantaine de départements. Alors il fallait que les départements payent. C'est pas gratuit. Je crois que c'était 180 000 euros pour accueillir la flamme dans son département. Il y a certains départements qui ont jugé la facture trop salée, notamment des départements d'opposition, ce qui fait qu'il y en a une trentaine qui ont décidé non. Par exemple, la flamme ne passera pas par Lyon, car le département du Rhône, comme la métropole d'ailleurs de Lyon, donc le département c'est LR, la métropole c'est les écololos, ils n'ont pas voulu payer.
On avait
180 000 euros.
Bah d'abord, au début, on avait un projet de passer par les grands sites français, puis on nous a dit faut qu'il y ait place partout. Et donc on s'est mis autour de la table avec notamment l'Association des départements de France qui a dit ouais, ce serait quand même vraiment bien qu'on puisse proposer à tout le monde, mais du coup ça a rallongé la longueur du relais. Et donc de fil en discussion, on a dit bah, comment on fait, et puis on a eu cette idée de se dire voilà, on va demander 150 000 hors taxes, 180 000 euros de participation, ce qui nous permet d'aller un peu partout.
Ça paye les frais,
et ça paye une partie des frais, parce qu'il y a un budget significatif,
pourquoi
près de 30 millions d'euros pour le comité d'organisation.
Qu'est-ce qui est si cher dans le parcours de la flamme?
Vous allez voir, il y a toute la sécurité, il y a les relayeurs, il y a toute l'organisation, il y a les uniformes, il y a les repérages, il y a toute la
les déplacements.
C'est comme une épreuve sur route.
J'ai bien regardé la carte quand même, j'ai quand même un problème. Alors, certes, c'était volontairement que les départements payaient. Mais enfin, la diagonale du vide qui va de Besançon à Périgueux, là, elle est quand même super bien marquée sur la carte. Et que les départements aient pas voulu payer par idéologie politique, je peux l'entendre. Je crois aussi que la diagonale du vide qui se dessine sur la carte de la flamme olympique, c'est les endroits où les gens ils considèrent que 180 000 euros, ça coûte du pognon et on le met ailleurs, quoi.
Départements moins riches.
Moi, je trouve que ça dessine très bien la diagonale du vide économique, quoi.
À chaque fois qu'on a trouvé des solutions, on parlait tout à l'heure de Alpes ou département, pour autant on va aller à Chamonix parce que le symbole est fort et on a trouvé d'autres partenaires pour le faire, etc. D'accord. Donc il y a aussi une volonté, à chaque fois que les gens ont vraiment voulu avoir la flamme, on a trouvé des solutions. Et encore une fois, 450 villes traversées, 17 000 km, millions de personnes.
Parlons gros,
moins d'une heure de la flamme.
Quelle sera la facture finale? Est-ce qu'on la connaît déjà? Et quelle sera la part du privé, du public?
Alors, les jeux, donc il y a le budget du comité d'organisation, celui que je dirige et que préside Tony Estanguet, c'est de 4,4 milliards d'euros. Hein, c'est un budget qui a évolué d'une quinzaine de pourcents depuis le début. On nous avait dit ça avait explosé, tout ça. 15% d'évolution, moins que l'inflation, globalement, depuis 2017.
Moins cher que ce
et c'est financé par des fonds privés.
D'accord.
96% du financement des jeux et 100% des Jeux Olympiques, c'est du financement privé. C'est trois grands tiers, c'est les droits télé et une contribution sur les top sponsors qui sont gérés par le CIO, donc qui contribuent à hauteur d'un milliard quatre.
Les droits télé, quand c'est France Télévisions qui achète, c'est notre argent quand même.
Mais il n'y a pas que France Télévisions qui achète. Mais globalement, c'est... Et donc ça, c'est géré par le CIO et c'est une contribution. Il y a la billetterie, un tiers, et il y a le sponsoring, on a 80 partenaires des jeux qui financent près d'un milliard quatre.
Donc c'est essentiellement de l'argent privé.
Et les 4% qui restent, ils sont ciblés sur les Jeux Paralympiques, qui est un événement qui ne s'équilibre pas en tant que tel. Et donc il y a un peu plus de 170 millions d'argent public qui
est
sur les
emplois privés.
Mais c'est 96% d'argent privé.
Voilà. Alors justement, comment on a réussi à limiter effectivement le surcoût? 15%, c'est rien par rapport à ce que Athènes, par exemple, a vécu. C'était vraiment une obsession, justement, de dépasser.
On a mis le curseur de manière assez simple. On ne dépensera que ce qu'on aura gagné. Donc en gros, c'était la logique dès le départ, c'est d'atteindre l'équilibre sur cette organisation. Et puis après, force est de constater qu'on avait peut-être pas trop mal prévu notre coût et que du coup, il y a eu assez peu d'évolution. Par ailleurs, les entreprises françaises ont été au rendez-vous, parce qu'on est
sur les marchés publics. Quels sont les plus gros sponsors?
Bah, on a des sponsors. Il y a les sponsors du top programme international, les Coca, les Samsung, Coca qui financera le concert, ce soir. Et puis après, on a les grandes entreprises françaises,
LVMH,
BPCE, LVMH, etc. Et donc, on a aujourd'hui des entreprises qui ont été au rendez-vous pour aider à financer, mais aussi amener leur expertise. Et puis, les PME françaises se sont hyper mobilisées. On a passé un certain nombre d'appels d'offres, 1300 appels d'offres. 90% de nos marchés, c'est des entreprises françaises qui ont répondu présent, 75% de PME, PMI, on en est hyper fiers, 10% de l'économie sociale et solidaire, donc on a réussi à être globalement et collectivement au rendez-vous, et puis chacun s'est défoncé pour tenir les objectifs, les coûts. Et,
ça, c'est
et
une bonne chose. Je crois qu'il y a quand même un choix depuis le début qui est quand même aussi de réutiliser les infrastructures existantes.
Exactement.
À part la grande piscine en face le Stade de France, rien n'a été construit pour l'événement. Et ça, c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire des Jeux Olympiques.
On avait plutôt bien prévu notre coup, on construit un village. Village paralympique, donc c'est 3000 logements, on a besoin de 25 000 logements par an en Ile-de-France, un village des médias, et puis en effet cette piscine dont on a fort besoin, une salle de 8000 places à la chapelle,
et le reste c'était de l'exil.
Joël, et ensuite on va au 32-16 écouter Corinne qui est commerçante à Marseille justement avec une question, et peut-être quelqu'un qui râle pour Étienne Thauoy, le DG de Paris 2024. Joël.
Non, voilà. Je voulais savoir, est-ce que dans combien de temps on saura si les Jeux ont été... ont rapporté.
C'est-à-dire,
est-ce que c'est rentable? Merci. Est-ce que c'est juste à la fin des Jeux? Est-ce que c'est à 6 mois? Est-ce que c'est à 1 an? Parce que les répercussions peuvent aller jusqu'à combien de temps la fin des Jeux?
Il y a une étude qui a été confiée au Centre d'économie et de droit de Limoges, donc qui reprend des méthodes de calcul scientifiques, etc., l'OCDE, etc. Aujourd'hui, on évalue entre 6 et 11 milliards les retombées. L'impact économique des Jeux, donc ce qui vient en plus. Donc nous, on est sur un chiffre à peu près à 9 milliards, c'est l'hypothèse centrale. 9 milliards de retombées économiques, c'est 180 000 emplois qui sont mobilisés, ça ne veut pas dire création d'emplois, mais c'est 180 000 emplois qui sont mobilisés. En direct, nous, les marchés des Jeux, c'est un peu plus de 2,5 milliards, sur un budget de 4,4. Mais il y a aussi la Solideo qui a fait les constructions, etc. Et donc c'est quelque chose qui... De mon point de vue, rapporte. Les retombées fiscales sont malgré tout très significatives, etc. Et globalement, on fera le bilan à la fin. Ouais. Et après, il y a des choses indirectes. L'impact sur le tourisme, on a vu qu'à Londres.
Dans un pays qui a fait le choix.
Mais déjà, en retombées directes, c'est très significatif.
On va passer voir Corinne, qui est marseillaise, qui est commerçante. Bonjour Corinne.
Bonjour.
Bienvenue dans les GG. Alors, est-ce que vous faites partie de Marseillais heureux, oui ou non, Corinne, alors?
Moi, je suis très contente pour ma ville et je trouve que ça va être un événement magnifique. Ce que je regrette beaucoup, c'est qu'il y a certains résidents, comme moi, j'ai la chance de vivre en dessous de la corniche, donc je vais pas me plaindre, mais qui sont assignés à résidence. En fait, c'est-à-dire que là, c'était 3 jours sans bouger de chez moi, pas de vélo, pas de trottinette, pas de voiture, rien. Je suis partie parce que j'ai pas envie de passer 3 jours printemps magnifique enfermé à la maison.
Vous pouvez pas sortir de chez vous.
En fait, la rue est complètement bouclée, même aux résidents.
Et donc, et le commerce.
Et alors mon commerce, moi j'ai un institut de beauté en centre-ville. Hier c'était déjà la pagaille. On a eu la moitié des clients qui ont annulé ou qui sont arrivés très en retard. J'ai dit c'est pas la peine. Pareil, les clientes elles peuvent
donc
pas
venir.
Donc
c'est du chiffre
en
centre-ville.
C'est 3 jours de fermeture. Un week-end. On était plein hier. Et j'ai perdu 50% de mes rendez-vous. Et aujourd'hui, je me suis dit, aujourd'hui et demain, je me suis dit, mais c'est pas la peine. Les clientes, elles m'ont dit, on peut pas accéder au centre-ville en voiture. On peut pas venir en vélo. On peut pas venir en trottinette. Ils auraient au moins pu laisser circuler les vélos. Je comprends les problèmes de sécurité, mais ça veut dire qu'une commerçante comme moi qui vit par rendez-vous, les restaurateurs, les gens qui vendent des babioles, je pense que ça va être très bien pour eux. Mais nous, si les clients ne peuvent pas venir,
Commerce local,
Ça n'a aucun intérêt.
Qu'est-ce que vous répondez à Corinne?
C'est dommage, parce que j'aurais bien aimé profiter plus de cet événement, en fait.
Alors, attends, Étienne, qu'est-ce que vous répondez à Corinne? Vous êtes conscient du désagrément et de la perte financière, quand même.
Alors là, j'apprends qu'on ne pouvait pas passer à vélo pour les Jeux, ce que le préfet de police a prévu à Paris. Alors pardon, sur Marseille, c'était peut-être un one-shot, donc c'était peut-être un petit peu plus compliqué.
À Paris, on pourra circuler en vélo.
Mais on pourra circuler en vélo,
dans la zone,
circuler en piéton, dans la zone, y compris la zone, la zone rouge. Dite SILT, de zone antiterroriste, la zone rouge, et puis la zone rouge, puis la zone SILT, pas tout à fait le même périmètre, mais qui se rejoignent un peu. Et puis surtout, on pourra s'inscrire en amont, c'est-à-dire que là, la préfecture de police va lancer une plateforme... dans le
week-end. Corinne, elle a perdu 3 jours de chiffre d'affaires.
Qui permettront de s'inscrire en amont, justement pour éviter tout ça. Ça revient à l'anticipation et l'information que j'évoquais tout à l'heure. Il faudra anticiper, il y aura des petites contraintes, il faudra inscrire, justement, les clients devront s'inscrire à l'avance pour pouvoir avoir leur QR code et pouvoir passer. Mais c'est les conditions, encore une fois, qui ont été fixées par...
Donc c'est pas vous, ça c'est la préfecture, ça, alors.
Bah, c'est les mesures de sécurité
son argent, elle le rattrapera pas, Corinne, quoi.
Ouais, ben je...
C'est un jour férié.
Je ne sais pas quoi dire à Corinne. Ouais. Voilà, les gens n'ont pas anticipé, comme elle le disait, ils sont arrivés en retard, etc. Mais c'est pour ça que je redis l'information, l'anticipation, c'est absolument clé. Et ça, on s'en sent responsable. Donc, désolé, Corinne.
Désolé, Corinne. C'est les désagréments, malheureusement. Mais
vous voulez ajouter quelque chose ?
Non, mais on est en week-end avec des jours fériés. Je voulais demander justement.
C'est un viaduc, même.
Voilà, est-ce que Corinne, est-ce qu'aujourd'hui, elle aurait dû être ouverte ou c'était déjà prévu d'être.
C'est ce qu'elle disait, c'est que malheureusement, elle a dû annuler ses rendez-vous.
Ses rendez-vous, même d'aujourd'hui.
Ah oui, c'est ça. Merci, Corinne. Merci, Étienne Taubois, DG de Paris 2024, d'avoir répondu à toutes les questions.
Et bon courage.
J'aimerais pas être à votre place dans les 3 mois qui viennent.
Pas beaucoup dormir.
Je suis ravi d'être.
Non, mais il a l'air assez serein. Mais derrière vous, c'est sympa parce qu'on voit.
Il est sous Xanax, mais il est serein.
On voit la sortie des petits bateaux du vieux port. Alors, ce sont les bateaux qui vont accompagner le Belém. Je sais qu'il y en a 1000 bateaux.
C'est ça, 1024 bateaux qui vont.
Ils sont en train de sortir.
Il y en a déjà beaucoup dehors.
Il y en a beaucoup dehors qui sont en train de sortir du port.
Ils sont 400 dans le vieux port qui vont sortir.
On les voit là derrière vous. C'est magnifique. Et le Belém arrive.
Quelques pointus qui ont mis les taux pour se protéger du soleil, parce que ça y est, ça se lève et il commence à faire ça.
Nous, on va prendre un sacré coup de soleil.
Moi, ça va, je suis
fait du bien.